بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue la lecture donc dans le sujet d'hier sur le suivi de la sunna. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون حدود أمره ونهيه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وعباداته ومعاملاته إلا ما علموا منه أنه خاص به، فكانوا يتعلمون منه أحكام الصلاة وأركانها وهيئتها أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc les Sahaba رضي الله عنهم suivaient fermement les limites de l'ordre et de l'interdit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et limitaient dans ses adorations et dans ses relations sociales, sauf s'ils savaient que la chose était, que la règle était spécifique à lui-même. Ça on l'a lu hier. Et donc notamment ils apprenaient de lui les règles de la prière, les piliers de la prière, les positions de la prière, suivant la parole du prophète quand il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez vu prier. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et en fait l'occasion de ce hadith, c'était le waft, c'est-à-dire le groupe de Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu, qui étaient des jeunes qui étaient venus pour annoncer l'islam de leur peuple et apprendre les règles de l'islam en fait, non, c'est pas là. Il y aura tout sur le net, en fait. On va le mettre tout de suite. Bah, il y aura tout sur c'est pas la peine d'enregistrer, tout il sera tout de suite mis sur le net. Donc, tout sera enregistré, inch'Allah. Et donc, qu'est-ce que je disais? L'occasion de ce hadith, ouais, c'est que le groupe de Malik ibn al-Huwayrith, radiallahu anhu, ils étaient venus apprendre les règles de l'islam pour ensuite les transmettre à leur peuple. Et avant de les quitter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, parmi les derniers conseils, « وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » et « priez comme vous m'avez vu prier ». ويأخذون عنه مناسك الحج وشعائرهم امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. Et aussi ils apprenaient de lui les rites du pèlerinage, conformément à ce qu'il a dit en leur disant, quand il a commencé le pèlerinage avec eux, il leur a dit خذوا عني مناسككم. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم, à l'époque, il n'y a pas de manuel pour expliquer comment on prie ou comment on fait le hajj. Il ne fait pas non plus un cours avant le hajj pour leur dire comment il leur apprend, il est là et les gens ils l'imitent. Et quand ils ont un problème, ils reviennent à lui et ils lui posent des questions, tout simplement. Ou alors quand ils voient quelqu'un faire une erreur, il le prend et il lui enseigne. Comme dans quel hadith? Le hadith de Al-Musi ou fi salati, celui qui avait mal fait sa prière, qui avait fait sa prière précipitamment, et il est venu voir le prophète et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, salli, li annaka lam tusalli. Repris car tu n'as pas prié. Et l'homme il a fait ça trois fois. Jusqu'à ce qu'ils disent finalement, ma arifu ghayraha fa'allimni. Il a dit, je ne connais pas autre chose que ça, alors apprends-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là par la parole, il lui a expliqué. Idha sallayta fastaqbil al-qibla thumma kabbir, etc. Cela il lui a dit, quand tu fais la prière, alors fais tes ablutions parfaitement, puis tourne-toi vers la qibla, puis dis Allahu Akbar. Et il lui a expliqué les piliers de la prière.
وقد بلغ من اقتدائهم به أن كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا أو يسألوا عن علته أو حكمته.
Et leur suivi du prophète a atteint le fait qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient et ils délaissaient tout ce qu'ils délaissaient sans connaître la cause et la sagesse qu'il y avait dans son acte ou dans son délaissement.
أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
Comme dans, il est rapporté dans le Bukhari de Ibn Omar رضي الله عنه qui a dit, le prophète avait pris une bague en or, c'est-à-dire il mettait une bague en or. Alors les gens, quand ils ont vu ça, ils se sont mis aussi à mettre des bagues en or. Et ensuite le prophète, un jour, il l'a enlevé, il l'a jeté, il a dit, je ne la mettrai plus jamais. Et les gens, ils ont pris leurs bagues et ils les ont jetées.
وخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذى.
Et dans les sunan d'Abi Daoud, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu raconte que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait, il dirigeait les compagnons dans la prière et il a enlevé ses sandales pendant la prière.
Donc déjà ça prouve que c'est une sunna de prier avec les sandales dans la prière et il les a mis à sa gauche.
Et quand les sahaba ont vu ça, et c'est là le morceau qui nous intéresse dans le hadith, ils ont retiré leurs sandales pendant la prière. Et après la prière, il leur a dit « Qu'est-ce qui vous a amené à enlever vos sandales ?» Et ils ont dit, regardez la réponse des compagnons, « On t'a vu enlever tes sandales, alors on a enlevé nos sandales. » C'est ça ce qui est voulu ici, pourquoi il a cité cette histoire, c'est ce morceau-là. Si ce n'est qu'après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué le pourquoi. Et il leur a dit, en fait, Jibril est venu me voir pendant la salat, et il m'a informé qu'il y avait une impureté dans mes sandales. Et donc il les a enlevées pour ça. C'est pour ça qu'il les a enlevés. Mais avant qu'ils ne sachent la cause, il ne leur a pas dit, il ne leur a pas reproché de l'avoir imité. Simplement, il leur expliquait pourquoi il l'avait fait. Et aussi, on peut en profiter, entre parenthèses, c'est que celui, et parmi les conditions de la prière, c'est de ne pas avoir d'impureté sur son corps, son vêtement ou l'endroit où on prie. Ça fait partie des conditions de la prière. Et que celui qui viendrait à découvrir une impureté religieuse, pas une impureté dans le sens une saleté, mais une najasa, c'est-à-dire une chose que la religion a déclarée comme étant une impureté, sur son vêtement, pendant la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit si possible l'enlever, et s'il ne peut pas, si par exemple l'impureté elle est sur son caleçon, par exemple il ne peut pas l'enlever pendant la prière, il sort de la prière, et il enlève l'impureté, et il revient et recommence sa prière.
ولقد بلغ حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناوبون ملازمة مجلسه يوما بعد يوم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما أخرجه عنه البخاري كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتواءب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك.
Et leur accrochement et leur assiduité à suivre les paroles et les actes du prophète les a amené certains d'entre eux à se s'alterner dans l'enseignement. C'est-à-dire, ici le Bukhari ramène, selon Omar ibn al-Khattab, il dit, j'étais moi un de mes voisins parmi les Ansar, c'est-à-dire les gens de Médine, parmi les descendants de Umayy ibn Zayd. Et c'était aux alentours de Médine. Il dit, on s'alternait dans le fait d'aller voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il partait un jour et moi je partais le lendemain. Et il disait, quand je revenais le soir, je lui enseignais ce qui s'était passé ce jour-là, je l'informais. Et quand c'est lui qui partait voir le prophète, le soir c'est lui qui m'enseignait. Parce que les sahaba, ils étaient des gens qui travaillaient. Et notamment, l'ansar, ils travaillaient les champs. Et donc Omar un jour il s'occupait de travailler et c'est son compagnon qui partait et le lendemain l'inverse. Donc regardez comment il cherchait à se casser la tête pour essayer d'aller voir la science et d'aller apprendre la sunna. Contrairement à nous maintenant, on attend qu'il y ait un séminaire et les gens ils sont à 100 km, 200 km et pour la moindre excuse ils veulent pas venir. Et ils disent bah c'est rien, ça sera sur internet. C'est pas la même chose sur internet. Parce que sur internet tu vas être chez toi avec ta tasse de café. Ton bébé il va te prendre la tête, ta femme elle va te dire au fait c'est quand qu'on va faire les courses, donc tu vas appuyer sur lecture et quand tu auras appuyé sur stop tout il sera parti. Alors que là tu as souffert, tu t'assois, c'est difficile, c'est comme ça que ça rentre, c'est comme ça que la science elle rentre et c'est comme ça si on regarde la voie des salafs, c'est comme ça qu'ils apprenaient, c'est à dire plus il y avait de la difficulté et plus ça rentrait. Certains ulama ils disent c'est pour ça que par exemple Ibn Hibban, l'imam Ibn Hibban, quand on regarde son sahih, en fait, c'est pas un sahih vraiment, mais les gens ils sont habitués à l'appeler sahih ibn Hibban. En tout cas, c'est un livre de hadith. Il a fait un tertib dans son livre qui est inédit. Normalement, d'habitude, un livre il commence par l'iman ou alors par les ablutions, et après c'est la salat, la zakat, etc. Lui, ça commence par d'une façon inédite. Il n'y a pas d'autre muhadith qui a fait un tertib comme ça dans son livre. Certains ulama, ils ont dit c'est pour que le talib, quand il cherche un hadith, il ne peut pas aller, par exemple, il sait à peu près les ablutions, c'est au début, alors il va prendre le premier tome et à peu près il va trouver le hadith. Il va souffrir pour trouver le hadith. Et quand il va souffrir pour trouver le hadith, eh ben, la science elle va rentrer. C'est pour ça aussi que les salafs, ils ne faisaient pas de ce qu'on appelle al-fahras. l'index. Maintenant, mashallah, c'est vrai que les livres, et ça sert les étudiants, ils ont des index magnifiques. Tu prends un char, il y a beaucoup de chourouhs comme ça, tu veux, ne serait-ce qu'un verset du Coran, trouver à quel moment il en a parlé, tu vas dans l'index, tu regardes les versets du Coran, il te dit à quelle page il a parlé, il a mentionné ce verset du Coran, ou les hadiths, ou les paroles des salafs, jusqu'à les poèmes. Les poèmes, tu vois, voilà, tel poème, il l'a mentionné dans telle page. Les salafs, ils ne faisaient pas ça. Pourquoi ? Pour que s'il veut savoir d'où il parle de hadith, du hadith, d'où il parle de la mas'ala, eh ben, il doit prendre tout le temps et le lire. Il prend tout le temps et il le lit. Et alors là, la science, elle va rester. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la page, on regarde, ah ouais, d'accord, et après on retourne à la PlayStation 2 ou la Coupe du UEFA, et le hadith, après le lendemain, on ne sait plus le répéter. Ou là, maintenant, c'est la PS3. Hein ? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ils disent aussi, certains ulama, ils mentionnent, en fait, tout ça, vous pouvez en profiter. Notamment, si vous voulez réviser ce qu'on a dit ici, entendre un peu tout ça, vous écoutez les cours de Cheikh Abdelkarim El-Khoudri. Il parle beaucoup de tout ça. Et il fait beaucoup profiter de ce genre d'histoire. Il raconte notamment que, avant que l'impression existe, ou non, l'imprimerie, pardon, que l'imprimerie existe, les ulama, comment ils faisaient pour se transmettre les livres ? Si un talib veut, par exemple, Riyad Salihin, toi quand tu veux Riyad Salihin, tu vas à la Maktaba, tu t'allonges des 15 euros et tu prends Riyad Salihin. Et tu rentres, après tu mets sur ton étagère et puis il ne va plus bouger de ton étagère. Alors que les salafs, et même pas les salafs, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques siècles seulement, avant quelques siècles, quand il voulait un livre, il va et il le copie. Donc s'il veut Fath al-Bari, eh ben, il prend Fath al-Bari et il recopie Fath al-Bari. Et pour lui, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, bon, Ibn Hajar, il a mis 23 ans à écrire Fath al-Bari. Je peux bien mettre un an à le recopier, ça, c'est pas un mal. Mais comment il va être à la fin qu'il a recopié Fath al-Bari ? Quand tu recopies un livre, par rapport au simple fait de le lire, la différence, elle est énorme. C'est pour ça que la science, elle était ancrée. Ou alors, il va payer quelqu'un, un warraq, qui va lui copier son livre. Et donc, le warraq, il ne va pas mettre une semaine pour copier son livre. Il va mettre du temps. Et il va lui passer 12 par 12, c'est-à-dire partie par partie. Donc, ce n'est pas comme nous maintenant, on achète tout le livre, on est content, on le regarde comme si c'était un gros gâteau, et on le pose sur l'étagère, et après, il ne bouge plus. Eux, il a le livre page par page, tome par tome, 100 pages par 100 pages. Donc, les 100 pages, surtout pour un étudiant de l'époque, c'est facile. En une nuit, il les lit. Et donc, à la fin, quand le warraq il a fini de copier tout son livre, en fait, il l'a lu complet. Parce qu'il l'a petit à petit. Et Shirir, il mentionne notamment que, quand l'imprimerie a existé, les ulama, notamment d'Al-Azhar, ils ont fait des fatawas pour interdire d'imprimer les livres religieux. À cause de ça. Pour pas que ça devienne une facilité et que les étudiants ils s'habituent à prendre les livres comme ça facilement. Et ils ont permis ça que dans les livres comme la poésie, la langue arabe, l'histoire, ils ont dit ça, on peut les imprimer. Mais les livres de hadith, de tafsir, de aqidah, on les imprime pas. On les laisse comme ça, celui qui les veut, ben, il a qu'à les recopier. Subhanallah. Ensuite il dit « كما كانت القبائل النائية عن المدينة » ترسل إليه صلى الله عليه وسلم بعض أفرادها ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إليهم معلمين ومرشدين بل كان الصحابي يقطع المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة نازلة أو حكم شرعي ثم يرجع لا يلوي على شيء. Ils disent aussi les tribus qui étaient autour de Médine, ils envoyaient des gens au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم pour apprendre les règles générales de l'islam. Et quand ils revenaient en tant que guide pour leur tribu. Et ils leur apprenaient les enseignements de l'islam. Et un compagnon, il pouvait même faire des très grandes distances pour apprendre au sujet d'une seule question qui lui était arrivée. Il donne un exemple, il dit « أخرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث أن امرأة أخبرته بأنها أرضعته وزوجته فركب من فوره وكان بمكة قاصدا المدينة حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم الله في من تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع ثم أخبرته بذلك من أرضعتهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. Toujours dans Sahih al-Bukhari, selon Uqba ibn al-Harith radiallahu an, il dit qu'une femme l'avait, quand il était à Mecca, une femme est venue l'informer qu'elle l'avait allaité lui et sa femme quand ils étaient petits. Alors que quand une femme elle t'allaite toi et elle allaite aussi une petite fille, ça devient ta sœur, donc tu peux pas te marier avec elle. Et une femme elle vient, elle lui dit quand tu étais petit, je t'ai allaité toi et j'ai aussi allaité ta femme. Et il était à la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils disent min fawrihi, ça veut dire tout de suite. Il n'a pas dit bon allez demain, je prends une journée en plus, etc. Tout de suite, il a pris son chameau, il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à Médine, 440 km. Sans climatisation, sans station essence, etc. Et tout seul. Et il est parti tout de suite pour une question. Et là, il a exposé le cas au prophète et il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, kayfa waqtri? Comment, c'est-à-dire comment pourrais-tu rester avec elle alors qu'on t'a dit que c'était ta sœur? Et il a séparé entre les deux. Ce qui est voulu dans cette histoire, c'est comment leur attachement à la sunna, il les pousse à faire des voyages, à couper des distances comme ça, quelles que soient les conditions, et de façon momentanée. Il ne réfléchit pas, il part tout de suite.
وكذلك كان من عادتهم رضي الله عنهم أن يسأل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشؤون الرجل مع زوجته لعلمهن بذلك. Aussi, il était de leur habitude de questionner les femmes du prophète après sa mort, صلى الله عليه وسلم, dans tout ce qui concerne l'homme et sa femme, parce que c'est elles qui étaient les plus informées de ces sujets-là.
كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألهن عن أمور دينهن. وأحيانا يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشأن السؤال عنه من أمورهن فإذا كان هنالك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر إحدى زوجاته أن تفهمها إياه كما في حديث عائشة في كيفية التطهر من الحيض.
Et aussi les femmes, elles allaient voir les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم pour les questionner à propos de leur religion. Et des fois, elles allaient aussi voir le prophète lui-même. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur, elle l'empêchait de répondre directement à certains sujets, alors il ordonnait une de ses femmes de faire comprendre la chose à la personne. Comme dans le hadith de Aïcha, où une femme, elle a dit, comment je me purifie des règles? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit notamment, tu prends un bout de coton et tu te purifies avec. Et elle, elle a dit, kayfa, kayfa atatahar. Et il a dit, subhanallah, tatahharim. C'est-à-dire, il a dit, subhanallah, tu te purifies tout simplement. Et après, Aïcha, elle l'a prise et elle lui a expliqué qu'en fait, elle prenait un morceau de coton, et etc., et elle frotte l'endroit, etc. C'est-à-dire, Aïcha l'a prise de côté et lui a expliqué ce que le prophète n'a pas osé, par pudeur, n'a pas voulu lui expliquer.
هكذا كانت عناية خير القرون رضوان الله عليهم بالسنة المطهرة في حياته صلى الله عليه وسلم اقتداء تاما به ووقوفا عند حدود أمره ونهيه وتسليما كاملا لحكمه والتزاما دقيقا بهديه وحرصا شديدا على تعلم سنته.
Ils disent, c'est ainsi que le meilleur des siècles et la meilleure des générations étaient assidus, et telle est l'importance qu'ils ont donnée à la sunna purifié du prophète et à sa vie, et à limiter complètement, et à s'arrêter aux limites de ses ordres et de ses interdits, et à se soumettre complètement à son jugement, et à s'attacher à lui de façon très précise, et avec une grande assiduité à apprendre sa sunna.
Amma ba'du wafatihi, sallallahu alayhi wa sallam, fa innana najiduhum, radiallahu anhum, idafatan ila ma sabaka dhikruhum, يسلكون مجالات أخرى للعناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها.
Il dit, après sa mort, on trouve encore d'autres exemples en plus et d'autres domaines qui montrent l'importance qu'ils ont donnée pour sa sunna, pour l'apprendre et aussi pour la protéger.
من ذلك حفظها والتثبت من ذلك حتى كان أحدهم يرحل في الحديث الواحد مسافة شهر يتثبت من حفظه.
Il dit notamment dans la mémorisation et at-tathabbut, c'est-à-dire la vérification d'un hadith, la révision d'un hadith. Il dit à tel point que l'un d'entre eux, pour un hadith, un seul hadith, il pouvait faire la distance d'un mois à Chamou pour eux mémoriser ou vérifier un hadith.
وكذلك كتابتها في الصحف والأجزاء ثم نشرها بين الناس وغير ذلك من المجالات.
Et aussi en les écrivant dans des feuilles et en les répandant entre les gens et en répandant les hadiths entre les gens. Donc on verra par la suite que l'écriture du hadith elle a commencé déjà chez les compagnons du prophète, contrairement à ce qu'on croit d'habitude.
كل ذلك وفق منهج عملي وعلمي يمكن الإشارة إلى أهم ملامحه فيما يلي. Donc là, il va donner des exemples. استشعر الصحابة الكرام رضي الله عنهم عظم المسؤولية الملقاة عن عواتقهم لحفظ الشريعة كتابا وسنة وتطبيقها. Il dit, les compagnons ont ressenti la grande responsabilité qui était sur leurs épaules de protéger la charia en l'écrivant, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et à l'appliquer. ثم تبليغها إلى الأمة أداء للأمانة التي اختيروا لها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. Et ensuite, dans le fait de la transmettre à la communauté pour répondre et rendre cette amana, c'est-à-dire ce dépôt de confiance qui leur a été confié, pour lequel ils ont été choisis. Et comme le prophète avant eux l'a fait avec eux, c'est-à-dire il a transmis l'amana. وقد كانوا رضي الله عنهم خير من حمل هذه الأمانة وخير من أداها بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الاستشعار لعظم المسؤولية منطلقا مما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل قوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Et ce sentiment qu'ils ont eu de cette responsabilité avait comme point de départ les hadiths qu'ils ont retenus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quand il a dit « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, et transmettez des fils d'Israël, il n'y a pas de mal. » Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et vous pouvez, pour la phrase « Transmettez des fils d'Israël, il n'y a pas de mal », vous trouvez l'explication dans la traduction de Ibn Kathir, où il explique « Si les Israéliettes, elles sont, c'est-à-dire les histoires des fils d'Israël, si elles correspondent à quelque chose qu'il y a dans la, elles ne font que confirmer quelque chose qu'il y a dans l'islam, on peut les raconter. Par exemple, ils racontent Daoud a fait telle chose, Sulaiman a fait telle chose. Il n'y a pas de mal à les raconter si c'est conforme à ce qu'il y a dans la religion. Si c'est contraire à ce qu'il y a dans la religion, il est interdit de les raconter. Et si c'est ni ça, ni ça, on a le droit de les raconter, mais ni on y croit, ni on n'y croit pas. C'est-à-dire si c'est une histoire, par exemple sur Daoud, sur Sulaiman, sur quoi que ce soit, et on ne trouve pas la confirmation dans la Sunna ni dans le Coran, mais on ne trouve pas non plus que ça contredit l'islam. Alors on a le droit de la raconter conformément à ce hadith, la haraj, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à raconter les histoires des fils d'Israël, mais ça ne veut pas dire qu'on y croit forcément. C'est pour ça que vous trouvez beaucoup dans les livres, ils racontent les histoires des fils d'Israël. C'est pas dans le sens où, regarde, c'est une vérité. C'est dans le sens, voilà ce qui se raconte, c'est tout. Après, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, ça dépend. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Si ça contredit l'islam, c'est faux. Si ça le confirme, c'est possible que ce soit vrai. Et si ça, ni ça confirme, ni ça l'infirme, alors on le raconte et c'est tout. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. وقوله نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. Ou alors l'autre parole du prophète quand il a dit qu'Allah embellisse un homme ou qu'Allah illumine un homme qui a entendu ma parole et qu'il l'a retenue et qu'il l'a transmise comme il l'a entendue, car peut-être qu'une personne à qui on transmet et retiendra mieux que celui qui l'a entendue. C'est-à-dire, ces deux hadiths, à quoi ils poussent? Ils poussent à transmettre. Ça, c'est des hadiths qui vont dans le sens de pousser à transmettre. وكذلك في مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ça, c'est un hadith à l'opposé. Il dit, celui qui ment sur moi de façon volontaire, qu'il prépare sa place en enfer. Donc les sahaba, ils étaient partagés entre ça et ça. Entre la responsabilité de transmettre et en même temps la peur de mal transmettre et de se tromper à propos du prophète. Et il faut savoir que ce hadith, celui qui ment sur moi, etc., à ma connaissance, premièrement c'est un hadith mutawatir, c'est-à-dire c'est un hadith que ses transmetteurs ils sont innombrables, et c'est le hadith le plus répandu. Notamment à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, c'était le hadith le plus connu et le plus répandu. Donc ça déjà c'est une grosse réplique aux gens qui essaient de parler sur l'authenticité de la Sunna. Puisque le hadith le plus connu, c'est justement un hadith qui menace de l'enfer celui qui ment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notamment il est dans Sahih al-Bukhari. وَقَوْلُهُ كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Et le hadith aussi qui dit dans Sahih Muslim, il suffit à l'homme comme mensonge qu'il raconte tout ce qu'il entend. Et ça, nous, on doit en tirer leçon, nous aussi. C'est-à-dire, les salafs, ils en ont tiré leçon et ils ne racontaient pas tout ce qu'ils se disaient. De la science ou des hadiths. Ils faisaient attention à ce qu'ils racontaient comme hadith. Mais nous aussi, on doit faire attention. Cheikh Attel a dit. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est parce que un tel, ton voisin, il t'a dit, Cheikh, un tel a dit, alors ça y est, tu répètes. Non, il faut que tu t'assabboutes. Il faut que tu t'assures de ce que le Cheikh a dit. Tu l'as entendu directement, par exemple. Ou alors, tu as parlé avec lui. Mais les gens, ils disent comme ça, et maintenant, tu vois beaucoup de frères, ils pratiquent leur religion sur ce que les gens, ils font. Ils font, ils reprochent ça aux gens, mais en vérité, beaucoup, ils tombent dans ça aussi. Pourquoi tu fais ça? Ben, je sais pas, je vois la plupart des frères, ils font, je le fais. Subhanallah, c'est comme ça ta religion, c'est l'imitation des frères. Et si les frères, ils sont tous trompés, donc toi aussi, tu vas te tromper. C'est pas comme ça. Donc, elle t'a fait bouter aussi, quand on dit shir a dit, le shir a dit, il faut vérifier. Parce que souvent, on se rend compte que le frère, il est à côté de la plaque dans ce qu'il transmet.
وقوله من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين وغير ذلك من الأحاديث.
الحديث aussi dans Sahih Muslim où il dit صلى الله عليه وسلم, celui qui raconte de moi un hadith dont il voit que c'est un mensonge, il est un des deux menteurs, c'est-à-dire celui qui l'a transmis et lui il le répète.
Et d'autres hadiths. ولذلك كله كان الصحابة رضوان الله عليهم مع حرصهم على تبليغ دين الله للأمة شديد التحري والتثبت فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يحدثون بشيء إلا وهم واثقون من صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون من الأخبار إلا ما عرفوا صحته وثبوته وهذه نماذج من أقوالهم ومواقفهم في ذلك.
Avec tout ça, et pour tout ça, les compagnons, malgré leur assiduité à transmettre la sunna, ils faisaient très attention dans At-Tahari, c'est-à-dire le fait de faire attention et d'être sûr de ce qu'on raconte quand ils parlaient du prophète. Et ils ne répétaient rien sans être sûr que ça venait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'acceptaient rien si seulement s'ils étaient sûrs que ce soit authentique. Et là, il va citer des exemples. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce que vous voyez que dès le début, la sunna, c'était pas quelque chose... Parce qu'on veut, ici, on veut beaucoup nous faire croire ça. Bon, le Coran, d'accord, ils l'ont écrit très tôt, mais la sunna, il y en a, c'est comme les évangiles, ça a été écrit 100 ans après Jésus, et là, ça a été écrit 100 ans après Mohammed. Ça n'a rien à voir du tout. Dès le début, la sunna, elle était transmise de façon très minutieuse. Et ils faisaient très attention, et avec beaucoup de fermeté, et en plus, comme on va le voir après... Et si on le voit pas après, ben Inch'Allah à Metz la semaine prochaine, et ça sera sur internet, même si je vous encourage à venir à Metz Inch'Allah, on va continuer, on verra que la sunna elle a été mise à l'écrit dès le début. Le Coran il a été mis à l'écrit, la sunna aussi. En tout cas une grosse partie.
Il dit awalan, an Anas radiallahu anhu qal, laula anni akhsha an ukhti'a la haddathtukum bi ashya'a sami'tuha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. أو قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Comme Anas رضي الله عنه, on sait qui est Anas dans le fait de il fait partie des compagnons qui ont répandu le plus de hadith, et ça ce qui l'a aidé notamment c'est le fait qu'il a vécu une centaine d'années, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم avait fait une dua pour lui qu'il ait une longue vie et qu'il ait beaucoup d'enfants, et les historiens disent il a vécu 100 ans à peu près, et il a eu 100 enfants. Il dit, si je ne craignais de me tromper au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous raconterai des choses que j'ai entendues de lui, mais le prophète a dit, celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. C'est-à-dire, il dit, je connais beaucoup de choses du prophète que je pourrais vous raconter, mais j'ai peur de me tromper et d'aller en enfer, et donc je ne vous les raconte pas. Donc regardez la sûreté dans le hadith. وعن ابن سيرين قال كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدث عن رسول الله قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ابن سيرين محمد ابن سيرين donc le tabi'i de qui était à Basra dit Anas disait peu de hadith, et pourtant Anas il fait partie de ceux qui ont répété le plus de hadith. Il dit Anas disait peu de hadith, et quand il disait quelque chose selon le prophète il disait ou comme le prophète a dit. C'est-à-dire, il disait, le prophète a dit, ou comme il a dit. C'est-à-dire, au cas où je me serais trompé dans la formulation. Ça, c'est Ibn Majah, il a mentionné ça dans sa muqaddima.
وعن الشعب وابن سيرين أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه وهكذا أو نحوه.
Pareil à Sha'bi, parmi les tabi'in, et Ibn Sirin, il raconte qu'Ibn Mas'ud, quand il racontait les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son visage, il changeait. C'est-à-dire, on sentait la peur en lui, et il disait, il a dit comme ça, ou à peu près comme ça. Il a dit comme ça, ou à peu près comme ça. De peur que, il disait, le prophète a dit, et en fait, il s'est trompé dans un mot, ou dans une formule.
وعن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشعبي يدي je me suis assis avec Abdullah ibn Omar et on sait qui est Abdullah ibn Omar. Quand le prophète est mort, Abdullah ibn Omar il était encore un jeune homme. Donc il avait la mémoire fraîche et il a vécu longtemps après le prophète pour pouvoir apprendre ses hadiths des autres compagnons et les répéter. Un imam dans la sunna. Il a dit, je me suis assis un an avec Ibn Omar et je ne l'ai pas entendu raconter un hadith. Pourquoi ? C'est quoi le, qu'est-ce qu'on en retire ? C'est la peur qu'ils avaient quand ils racontaient des hadiths. Mais quelqu'un pourrait me dire, bah, donc ils n'ont pas transmis. Il ne faut pas croire ça. Comme je vous ai dit hier, déjà ils ont transmis, on sait qu'ils ont transmis des hadiths. Ibn Omar, il a des milliers de hadiths. Mais aussi ils ont transmis par les actes. C'est-à-dire, Ibn Omar, il a ses compagnons. Et il sait que ses compagnons, il le considère comme Ibn Omar, c'est un sahabi. Il a l'amana, il a la responsabilité. Et il est considéré comme un imam. Donc il prie, il fait le hajj, il fait son jeûne, il fait comme il a appris de la sunna et les gens, ils le regardent. Et après, ils disent, j'ai vu Ibn Omar, il faisait ça, 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 ça. Donc ils enseignent notamment par les actes, par le simple fait d'appliquer la sunna.
Wa qala Abdurrahman ibn Abi Layla, adraktu 120 min al-ansari min ashabi Muhammad. صلى الله عليه وسلم ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه.
عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي دي j'ai connu 120 parmi les Ansar, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à Médine. Il n'y en a pas un d'entre eux quand il racontait un hadith sans et qu'il aurait aimé que son frère il le fasse à sa place. Ou alors on lui pose une question sans qu'il aurait aimé que son frère y réponde à sa place. C'est-à-dire, il repoussait le fait de répondre aux questions et de dire des hadiths.
وفي رواية يسأل أحدهم المسألة فيسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول.
Dans une version, il a dit, l'un d'entre eux lui posait une question et l'a renvoyé à un autre compagnon jusqu'à ce qu'elle lui revienne. C'est-à-dire, l'autre, il a renvoyé à un autre, etc. À la fin, elle revient sur lui.
وعن السائب بن يزيد قال خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة.
السائب بن يزيد dit j'étais avec Sa'd, donc je pense c'est Sa'd ibn Abi Waqqas parmi les compagnons du prophète رضي الله عنه. Il dit je suis sorti avec lui à la Mecque et je ne l'ai pas entendu dire un seul hadith jusqu'à ce qu'on revienne à Médine.
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قلنا ليزيد بن أرقم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كبرنا ونسينا والحديث عن رسول الله شديد.
عبد الرحمن بن أبي ليلى يدي ونادي زيد بن أرقم un compagnon raconte-nous des hadiths du prophète. Il leur a répondu on a vieilli et on a oublié et le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم c'est dur, شديد, ça veut dire c'est pas de la blague, c'est pas une rigolade, on peut plus raconter, si on n'est pas sûr on raconte pas. Ça, si vous voulez retrouver, c'est notamment dans les Sunan d'Ibn Majah, la Muqaddima de Sahih Muslim. Il ramène ses paroles pour montrer l'attachement à répéter la Sunna correctement. Il y a aussi une autre histoire, le même Cheikh il a mentionné dans son autre livre. C'était sur un compagnon du prophète qui était un bédouin. Donc ce n'est pas parmi les compagnons qui sont restés longtemps avec le prophète, comme par exemple Mu'adh ibn Jabal qui était à Médine par exemple. C'est un compagnon peu connu. Et parmi les bédouins, ça veut dire qu'il a dû rencontrer le prophète quelques instants et après il retourne dans le désert et c'est un bédouin, vous avez compris. Et il raconte qu'une fois, donc à l'époque, après la mort du prophète, bien après la mort du prophète, il passait par une région et l'émir de la région, ou un responsable d'une tribu, je ne sais plus trop, il lui dit viens, il lui dit toi tu es un compagnon du prophète, assieds-toi et raconte des hadiths. Et comme ça, ça va ramener les gens et on va faire du commerce, etc. Le Mouhim, il voulait madda, il voulait de l'argent et un profit. Et le sahabi lui a répondu, Al-Kadibu ala Rasulillah an-nar. Il lui a dit, le mensonge sur le prophète, c'est le feu. Et il est parti. Un simple bédouin. Ça veut dire, c'est pas Abu Huraira ou Mu'adh ibn Jabal ou Abdullah ibn Mas'ud. C'est un simple bédouin. Il n'a pas appris beaucoup avec le messager. Mais ça, ça lui est resté. C'est pour ça que je vous dis ce hadith qui dit que celui qui ment sur le prophète et qui prépare sa place en enfer, c'est un hadith, c'était le hadith le plus connu à l'époque. C'était dans la tête de tout le monde. Même un simple bédouin parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il savait ça. Quand c'est à 45 minutes, tu me dis. ثانيا العناية بالسنة المطهرة في عصر التابعين فمن بعدهم. Ensuite, l'importance qui a été donnée à la sunna à l'époque des tabi'in. ما كاد عصر الصحابة ينقضي ليبدأ عصر التابعين حتى بدأ بزوغ الشمس الفتن والأهواء والبدع. Il dit, l'époque des compagnons a à peine fini et l'époque des tabi'in a commencé, que déjà le soleil des fitan s'est levé et des innovations et des passions. وذلك أن أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وصابئة وفلاسفة شرقوا بهذا الدين الذي حمله هؤلاء الصحابة الكرام إلى الناس كافة. كما ضاق هؤلاء الأعداء ذرعا بتلك الانتصارات العظيمة التي حققها الإسلام وذلك الانتشار السريع في أنحاء الأرض. Il dit parce que les ennemis de l'islam parmi les enfants d'Israël et les juifs et les Majus, c'est-à-dire la religion des Perses, et As-Sabi'a, qui est une très vieille religion d'Irak, et les philosophes, ils ont ressenti de la haine quand ils ont vu l'expansion de cette religion, l'expansion extraordinaire et la victoire de cette religion. ولما لم تجدهم المقاومة العسكرية لهذا المجد الإسلامي شيئا رام هؤلاء الأعداء المكر والكيد لهذا الدين وأهله. Et quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas répondre à la religion de façon militaire, parce que ça y est, la force elle est à l'islam, et eux ils sont sous l'islam, ils ne peuvent rien faire avec les armes. Alors ils ont attaqué directement la religion. Et avec des al-makr, c'est-à-dire avec la ruse. فأخذوا يثيرون الفتن والشكوك والشبهات بين المسلمين وخاصة حديث العهد بالكفر. Et ils ont commencé à répandre les troubles et les doutes et les ambiguïtés dans les musulmans et notamment ceux qui étaient nouvellement convertis. وكانت بداية تلك الفتن بكسر ذلك الباب الذي أخبر عنه حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه عندما سأله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن الفتنة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تمود كموج البحر فقال له حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا فقال عمر وهل يفتح الباب أو يكسر فقال بل يكسر قال فإنه حري ألا يغلق مرة أخرى وأخبر حذيفة في الحديث أن عمر كان يعلم أنه هو الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. Il dit donc, et les fitans ont commencé à arriver comme Hudhayfa ibn al-Yaman, le compagnon du prophète, l'avait annoncé. Dans le hadith où Omar ibn al-Khattab, il a dit à Hudhayfa, informe-moi sur cette fitna dont le prophète a parlé, qui sera comme les vagues de la mer, c'est-à-dire elle vient massive et elle se répète. Parce que Omar et tous les compagnons savaient que Hudhayfa, le prophète lui a enseigné des choses qu'il n'a pas enseignées aux autres. Et il connaissait des secrets sur ce qui va se passer, notamment sur les troubles et sur ce qui va se passer. Et il lui a dit, pourquoi tu veux ? Il dit, qu'as-tu à voir avec ça, ô chef des croyants ? C'est-à-dire, il dit ça à Omar. Il dit, sache qu'entre elle et toi, il y a une porte qui est fermée. C'est-à-dire, cette fitna, elle ne t'atteindra pas toi, Omar. Et Omar, il a dit, est-ce que cette porte qui est fermée, elle sera ouverte ou est-ce qu'on va la casser ? Et Hudhayfa lui dit, on va la casser. Et Omar il répond, si on la casse, alors elle ne sera pas fermée une autre fois. Parce qu'une porte, si tu l'ouvres, tu peux la refermer. Mais si tu la casses, tu ne peux pas la refermer. Elle reste ouverte. Et donc Omar a répondu, donc si on la casse, on ne la refermera plus jamais. Et Hudhayfa, il dit, quand il raconte cette histoire plus tard, il dit, et Omar savait que la porte, c'est qui ? C'est lui. Et il le savait comme il sait que demain, il y aura un autre jour. La porte c'est Omar. Et c'est quoi le fait que la porte soit cassée ? C'est l'assassinat d'Omar. Et quand Omar meurt, les fitans ne s'éteignent plus. وكان كسر ذلك الباب بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه وذلك بمؤامرة مجوسية صليبية وبذلك انفتح باب الفتن التي كان عمر رضي الله عنه بابا موصدا في وجوه أصحابها. والمتتبع لسيرة عمر يجد ذلك واضحا جليا حين كان عمر رضي الله عنه متيقظا فما تكاد تبغز فتنة أو بدعة هنا أو هناك إلا ويقضي عليها في مهدها. Il dit donc que le fait de casser cette porte, c'était l'assassinat de Omar, qui était un plan majoussi. C'est-à-dire celui qui a tué Omar, c'est un majoussi, un perse. Et c'est comme ça que la porte des troubles, des fitnes, elle s'est ouverte. Alors que Omar, il était une porte fermée dans la face des gens de la fitna. Et celui qui lit la vie de Omar, il voit de façon claire que Omar, dès qu'il y avait une innovation, une fitna qui commençait, il la fait mourir dans son berceau. وما قصة صبير بن عسل وصاحب دانيال الذي كان ينسخ صحفه وينشرها بين الناس إلا نماذج من الأدلة على ذلك التيقظ والصرامة من عمر في وجوه أصحاب الفتن والبدع والأهواء. Et l'histoire de le compagnon entre guillemets de Daniel et l'histoire de son nom c'est Soubayr ibn Asl sont des exemples de cet éveil qu'avait Omar à éteindre les fitanes. فقد حسم عمر أمرهما باستدعائهما إليه في المدينة وحبسهما وضربهما حتى تابا وأعلنا توبتهما عند ذلك ردهما إلى أهلهما ثم منع عمر المسلمين من تكليمهما أو الجلوس إليهما وذلك لمدة شهر من الزمان حتى قال الراوي ولقد رأيت صبيغ يمشي في البصرة كالناقة الجرباء لا يقربه أحد وذلك عزمة أمير المؤمنين. Il dit car Omar, en fait le sahib Daniel c'est quoi? C'est un homme qui disait qu'il avait retrouvé des feuilles du prophète Daniel, donc un prophète des fils d'Israël, et il les répandait parmi les gens. Alors que les musulmans ils n'ont pas besoin, même si on venait à retrouver réellement des écrits de la révélation, on n'en a pas besoin. Et cet homme il répandait ses écrits parmi les gens. Et l'autre, Soudayr ibn Is, c'est un homme qui commençait à répandre des shubuhat en Irak. L'histoire de l'homme qui répandait les feuilles de Daniel, de façon globale, ce que je connais, c'est que Omar, comme il est cité ici, il l'a fait venir à Médine et il l'a fait frapper jusqu'à ce qu'il se repente. Et pour ce qui est de Soubayr, c'est un homme qui répandait des shubuhat et Omar, il l'a fait venir jusqu'à Médine, depuis l'Irak. Il a ordonné qu'on le ramène. Quand il l'a ramené à Médine, Omar, avant de parler avec lui, il l'a tapé sur sa tête. Il l'a tapé. Après, il l'a mis à l'écart. Le lendemain, il lui a refait la même chose. Il ne lui parle pas. Et le lendemain, au bout du troisième jour, il lui refait. Et le lendemain encore, l'homme, il lui dit, Omar, si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux que je guérisse de ces idées, ça y est, je suis guéri. J'ai plus d'idées, j'ai plus de doutes, j'ai plus rien. Et après Omar, il l'a renvoyé, et le Sahib Daniel, les deux, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il les a renvoyés en Irak, et il a mis un décret, donc décret du calife, entre guillemets, interdiction de s'asseoir avec eux et de leur parler. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, je voyais Soubayr ibn Is dans le marché, comme une chamelle, jarba, c'est-à-dire les chamelles qui ont une maladie et qu'on les laisse, c'est-à-dire on ne peut pas les approcher. Il dit, je le voyais comme ça, personne ne lui parlait, personne ne s'approchait de lui. Ça, c'était la dureté de Omar. Personne ne pouvait bouger. هكذا تكون حماية الأمة ودينها ومعتقدها من المرجفين وأصحاب البدع والأهواء. Il dit, c'est ainsi que doit être la protection de la communauté et de sa religion et de son dogme contre les gens de l'innovation et des passions. وهكذا يكون الحاكم المسلم الحارس الأمين على دين الأمة وعقائدها وأخلاقها. Et c'est comme ça qu'un juge et qu'une personne responsable des musulmans, il doit être dans la religion et sur le dogme et les comportements islamiques. رحم الله شهيد المحراب عمر رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناتي وحشرنا معه يوم القيامة وذلك بحبنا له. Il dit qu'Allah fasse miséricorde au martyr du mihrab, c'est-à-dire à Omar, et qu'il le fasse entrer dans le paradis. ثم انضم إلى ذلك التآمر المجوس النصراني المكر اليهودي على يد ابن سبا الذي أصبح بعد ذلك أساس كل فتنة في الإسلام. Il dit le plan de l'assassinat de Omar, c'est un plan à la fois majoussi et chrétien. Il dit, est venu s'y ajouter le plan des juifs avec Abdullah ibn Saba, qui était en fait un juif du Yémen qui a fait semblant de se convertir et qui a pris une apparence d'homme pieux. Il a pris une apparence d'homme pieux Et c'est lui qui est à la cause de beaucoup de fitan, de la création notamment des Khawarij, des Shia, des troubles politiques qu'il y a à l'époque, tout ça c'est lui. Et donc après, les innovations et les troubles se sont enchaînés. Et donc est apparue l'innovation de al-qawl bil-qada, c'est-à-dire de renier le destin. Puis, al-tajahum, c'est-à-dire le fait de renier les noms et les attributs d'Allah. Donc les ancêtres de ceux qui nous disent maintenant sur internet qu'ils font partie d'Ahl Sunnah wa Jama'a et ils disent Allah il est ni au-dessus, ni en bas, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, etc., etc. Leur ancêtre c'est Jam ibn Safwan qui s'est fait exécuter. Et nos ancêtres à nous, Inch'Allah, c'est les salafs qui leur ont répondu. Donc qui est Ahl Sunnah entre les deux, c'est facile à répondre. Donc en tout cas il dit après At-Tajahum, après Ar-Rawd, c'est-à-dire Ar-Rawafid, les chiites, et Al-Mu'tazila. Donc là il n'a pas cité dans l'ordre chronologique. L'ordre chronologique c'est Al-Qadariya et Al-Khawarij à peu près à la même époque. Al-Shia, hein, juste après. Et après, plus tard, ça c'est les trois grandes bid'ahs du début. Après, plus tardivement, sont arrivés Al-Tajahum. C'est-à-dire le fait, Jahm ibn Safwan qui répondait que Allah ne parle pas, Allah n'a pas d'endroit, n'a pas de nom, n'a pas d'attribut, etc. Et après, l'I'tizal, Al-Mu'tazila, qui ont à peu près suivi Jahm ibn Safwan. وعند انتشار هذه الفتن والبدع والأهواء ça fait 45 minutes, on s'arrête là.